Bonsoir. À un mois de la date prévue pour le premier tour des élections présidentielles et législatives en RDC, on voit des partis politiques, voire des candidats présidents et députés nationaux, se rassembler pour former ce qu'ils appellent des plateformes politiques. Rien que la semaine dernière, on a vu le vice-président de l'ECOFIN, Jean-Pierre Bemba, lancer les regroupements des nationalistes congolais, Renaco en sigle, tandis que Pierre Paï-Paï, candidat président et ancien ministre et gouverneur de la Banque centrale à l'époque de Mobutu, lancer sa coalition des démocrates congolais, CODECO en sigle. Et le week-end dernier, c'était le tour du chef de l'État, Joseph Kabila, de lancer les bases de l'Alliance pour la majorité présidentielle AMP. Bien entendu, ces trois plateformes ont déjà assimilé quelques-uns des 33 candidats à la présidence. Alors, que visent ces plateformes? Quelle attitude doivent avoir les électeurs vis-à-vis de ces regroupements politiques? Les premières réactions de nos auditeurs à ces sujets sont entre autres celles de Mastaki Mwamba de Beni, qui pense que ces plateformes sont des coalitions momentanées formées au gré de la conjoncture politique sur base des simples protocoles d'accord. Et notre auditeur estime que la formation de ces plateformes n'est qu'un trompe-œil. Ces alliances sont contre nature et visent à tromper les naïfs. Et pour éclairer nos auditeurs sur ces sujets, ce soir nous avons comme invité François Elika. Il est analyste politique et assistant à l'IFACIC en études approfondies des relations internationales et organisations internationales. Bonsoir.
Bonsoir.
Et si les conditions techniques le permettent, au cours de cette émission, nous serons également avec le professeur Eli Kiambokolo, analyste politique et directeur d'études à l'école de hautes études en sciences sociales, à l'école de des sciences sociales de Paris. Il va intervenir dans cette émission en direct de Paris.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette émission à l'approche des élections libres, démocratiques et transparentes prévues pour le 30 juillet prochain. De plus en plus de partis politiques se regroupent en plateformes fondées surtout sur des visées électoralistes. Avant toute chose, je vous invite d'abord à suivre une présentation sommaire de ces plateformes avec notre confrère Freddy Lufuluabo.
L'Alliance de la majorité présidentielle AMP regroupe 31 partis politiques engagés à soutenir la candidature de Joseph Kabila. La coalition des démocrates congolais, CODECO, est avec Pierre Paï-Paï. Ici, on retrouve 26 formations politiques qui veulent accéder au pouvoir par des voies démocratiques pour gouverner autrement et redonner l'espoir au peuple congolais. Quant à Jean-Pierre Bemba, Jonas Munkamba, Mboso Kodia, ils font partie du regroupement des nationalistes congolais Renaco, une plateforme de 23 partis politiques engagés à assurer le bien-être social du peuple congolais par une politique de distribution équitable des richesses nationales. 13 partis politiques forment la Convention des démocrates chrétiens CDC. Ceux-ci sont derrière le candidat Florentin Mukonda. Ils veulent faire triompher les valeurs chrétiennes et tirer le peuple congolais de l'ignorance. À tout ceci s'ajoutent d'autres regroupements politiques tels le camp de la patrie des Aïd Ngoma, les forces du renouveau FR de Moussa Nyamwisi, l'Union pour la reconstruction du Congo YREC et alliés d'Oscar Kachala. Ces plateformes électorales gravitent pour la plupart autour d'un candidat à l'élection présidentielle. Selon des calculs politiques, un candidat à la présidentielle qui est soutenu par un regroupement de plusieurs formations politiques aurait la chance de recueillir des voix sur l'ensemble du territoire national où ces partis sont implantés.
Monsieur François Elika, comment expliquez-vous ce phénomène à quelques semaines des élections?
Merci beaucoup. Il faut dire que ce sont des phénomènes qui sont liés à la conjoncture, à la situation des élections. Les plateformes telles que nous les voyons se formaliser, ne nous présentent pas de contours idéologiques, ne nous présentent pas un fondement philosophique précis. Il s'agit des alliances qui se créent en vue de la conquête du pouvoir et c'est ça la stratégie pendant ce temps des élections.
Alors, il y a Dr Fidel Nchanga qui est un auditeur qui nous a écrit des Lubumbashi au Katanga et qui pose effectivement la question de savoir pourquoi, par exemple, avoir attendu la veille de la campagne pour constituer ces plateformes. Vous avez une idée sur ça, Monsieur François Elika?
Bon, il faut dire qu'il y a des conventions, en fait, il y a des plateformes qui sont nées pas à la veille de la campagne, notamment la convention de Pierre Paï-Paï et bien d'autres, mais il faut dire que c'est à la veille de la campagne électorale qu'on arrive vraiment à se rendre compte avec qui on peut faire alliance, et je crois que c'est un élément qui tient beaucoup plus compte de la fidélité, Il faut savoir vers qui vous devez aller, et c'est lorsque on se rassure que cette élection va pouvoir commencer ou bien cette campagne va pouvoir commencer qu'on peut arriver à formaliser ce type de rapport. Mais il faut dire que dans l'informel, ce sont des négociations qui prennent énormément de temps, et puis on s'est dit il faut peut-être donner à ces négociations un caractère solennel. Prévoir une sortie officielle de la plateforme à la veille de la campagne, ça a peut-être pour objectif de pouvoir donner un peu plus de confiance, rassurer à la base et beaucoup plus aussi amener à des fins de propagande la démarche que l'on voudrait réaliser.
Oui, vous venez de parler là des objectifs. Alors, notre auditeur Jean-Faustin de Mahagui, c'est en district de l'Ituri, en province orientale, estime que pour éclairer l'opinion des auditeurs, est-ce qu'il ne serait pas possible de connaître quels sont les objectifs visés par ces plateformes? Il veut également qu'on lui dise quand cela atteindra la population. Alors, avant de vous laisser François Elika réagira à cette préoccupation de notre auditeur. Voyons les réponses réservées à cette même question par les responsables de certaines plateformes que nous avons pu joindre. Et l'une des premières plateformes à avoir vu le jour est la Coalition des démocrates congolais, Codeco de Pierre Paipai, qui est candidat à la magistrature suprême. Alors, voyons quels sont les objectifs de cette plateforme. À ce sujet, je vous invite à suivre Élisée Dimandia, qui est porte-parole de la Codeco, et les joints par Georges Kamudjova. Suivant.
L'objectif principal de la Codeco, c'est d'accéder au pouvoir par des voies démocratiques et donc par le voie des urnes pour gouverner autrement et redonner l'espoir au peuple congolais. Le président de la Codeco, M. Pierre Paipai, qui est aussi candidat à la magistrature suprême de notre pays, a déclaré dernièrement que dès le 100 premiers jours de sa prise de pouvoir, il devra donner des signaux très clairs en direction de la population. Premier axe, ça sera dans le domaine de la paix. Il va rapidement prendre langue avec le seigneur de guerre, le belligérant, le pays voisin de la RDC, pour que, ensemble, par le dialogue, on arrive à trouver des solutions aux problèmes de la paix en RDC en rassurant les uns et les autres. Le deuxième axe, c'est celui de la justice. Il faudra très rapidement rassurer les investisseurs nationaux et internationaux, mais aussi les citoyens congolais par rapport à la justice dans notre pays, pour permettre à ce qu'on redémarre très vite l'activité économique et dégager des ressources qui permettront alors de s'attaquer aux questions sociales. Par rapport au social, dès le premier 100 jours, il va donner des signaux forts en accordant une attention particulière aux questions de l'armée, aux questions de l'administration et aux questions de l'enseignement.
Oui, nous venons de suivre là donc Madame Élisée Dimandia, qui est porte-parole de la CODECO. Et maintenant, le regroupement des nationalistes congolais, lui, a pour objectif de gagner les élections dès le premier tour, a indiqué bien sûr à Radio Okapi M. Bofa Sanjima, qui est coordonnateur adjoint de cette plateforme politique. Cette dernière, une fois au pouvoir, entend promouvoir la paix, la bonne gouvernance, en vue de relever les niveaux sociaux des Congolais. Bofa Sanjima est interrogé par Nazer Nkoko, suivant.
Le regroupement des nationalistes congolais a été créé avec comme objectif gagner les élections, d'exercer le pouvoir et le conserver. Le premier objectif, c'est la paix. Comme vous le voyez vous-même aujourd'hui, cette paix est très fragile. Nous devons tout faire pour consolider cette paix et avec cette paix dans l'unité. Le deuxième objectif, c'est la bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance ne peut être de mise qu'avec une justice responsable. Plus le côté social.
Votre victoire, vous la visez dès le premier tour ou bien avec possibilité des alliances au second tour?
Pour que nous puissions gagner les élections présidentielles, cette ambition ne peut s'expliquer par le combat que nous menons pour gagner au premier tour. Mais vis-à-vis de la loi, elle est prévue au deuxième tour. Et si nous ne gagnons pas au premier tour, comme je l'ai dit, c'est normal que nous puissions avoir des alliances. La cour est ouverte, nous sommes des démocrates.
Donc ça, c'était les objectifs poursuivis par Renaco. Alors une autre plateforme, l'AMP, l'Alliance pour la majorité présidentielle, qui a fait sa sortie officielle le 24 juin dernier et qui soutient Joseph Kabila, donne également son objectif. Écoutons ici Olivier Kamitatou, porte-parole de l'AMP. Une fois de plus, il a été joint par Georges Kamudjova.
Comme son nom l'indique, l'Alliance pour la majorité présidentielle, c'est un engagement déterminé en vue de constituer effectivement un groupe qui doit gagner les élections présidentielles à la faveur des prochains scrutins qui seront organisés dans la transparence et des scrutins crédibles du 30 juillet prochain.
Alors vous dites pour gagner les élections présidentielles, il y a un seul candidat dans cette plateforme. Peut-on dire aujourd'hui que l'objectif premier de l'AMP n'est que la victoire de Joseph Kabila ?
Non, c'est l'objectif premier, mais ce n'est pas l'unique objectif. C'est un objectif qui doit conduire effectivement l'alliance pour la majorité à devenir l'alliance de la majorité après le 30 juillet. Et donc, comme vous le savez, nous aurons des scrutins parallèles, les élections législatives. Cette alliance regroupe près de 2600 candidats. Elle reste une alliance ouverte à d'autres partis politiques, à d'autres personnalités indépendantes. La politique n'est pas exclusivement de la mathématique, mais ça y ressemble quand nous sommes dans la loi des grands nombres et nous pensons qu'à travers une majorité présidentielle, mais également une majorité parlementaire, on peut mieux guider les choses en vue que les élections soient synonymes de stabilité et rapidement de reprise du pays au travail.
François Elika, qu'est-ce qu'on peut retenir au fait de tous ces objectifs annoncés ici par ces différentes plateformes ?
On peut retenir le fait que toutes les plateformes présentes formellement se présentent comme des structures qui visent la conquête du pouvoir, mais aussi comme des structures qui voudraient qu'après que ce pouvoir soit conquis, qu'elles puissent œuvrer pour l'avènement d'un état de droit, l'avènement de la démocratie effective, la bonne gouvernance, bon, en vue du développement. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de pouvoir se poser la question, est-ce que toutes ces plateformes donnent visiblement la possibilité de pouvoir créer un ciment idéologique qui soit une référence, de sorte que le comportement de ceux qui sont embarqués dans la dynamique soit un comportement de conviction. Je crois que le débat doit être à ce niveau-là. Lorsque les gens se mettent ensemble et qu'ils se mettent ensemble uniquement avec l'objectif que telle personne soit élue ou bien que nous puissions avoir une majorité au niveau du Parlement, il faut que la vision du départ soit une vision concrète qui est inspirée par des convictions philosophiques fortes. Mais nous constatons que la dynamique, en fait, disons la logique qui sous-tend la dynamique à la base de la formalisation de ces plateformes est une logique liée beaucoup plus aux élections, valorisant alors à ce niveau-là une sorte du respect, en fait, pas du respect, mais de la promotion de l'individu. L'individu, c'est-à-dire la personne que l'on voudrait porter au pouvoir. Mais alors là, l'inconvénient, c'est que le jeu politique devient un jeu qui n'est pas axé sur les idées, mais axé sur les individus. Il y a risque que la démocratie qui va se construire soit une démocratie qui ne soit pas une démocratie fondée sur les valeurs.
Oui, François Elika, nous allons poursuivre dans cet angle-là. Mais déjà, on nous signale que le professeur Elika Mbokolo est en ligne. Je rappelle à nos auditeurs qu'il est analyste politique et directeur d'études à l'école de hautes études en sciences sociales à Paris. Et il intervient dans cette émission en direct de Paris. Bonsoir, professeur.
Oui, bonsoir.
Oui, professeur, nous parlons ici de la formation, au fait, des plateformes politiques à la veille même des élections. Est-ce que d'emblée, pour vous mettre dans le bain même de cette émission, vous pouvez nous dire quelle est votre position par rapport à ces phénomènes, au fait, qu'on observe à la veille même ou bien à un mois même des élections?
Oui, je viens d'entendre le dernier intervenant et je suis plutôt d'accord avec lui, parce que la première chose qu'on constate, c'est qu'il y a eu évidemment une pluralité excessive de partis politiques au Congo qui dépasse la centaine ou les deux centaines, et il était évident que même si notre pays est grand, il n'y a tout de même pas de la place pour des dizaines de partis entre lesquels les différences ne sont pas très très évidentes. Donc il fallait s'attendre à ce qu'à un moment ou à un autre, des plateformes se constituent, comme cela s'est fait d'ailleurs dans les élections passées. Alors l'un des intervenants expliquait bien que le problème de ces plateformes, c'est que le regroupement ne se fait pas sur une base idéologique claire, et si le mot idéologie peut choquer, il ne se fait pas non plus sur une base de programme qui soit clair pour tout le monde et qui engage effectivement tout le monde. Ce qu'il explique, c'est que cela en fait correspond à un ralliement de gens autour d'une personne qui est donc le candidat à la présidence, et les gens vont se mettre derrière cette personne. Mais moi, j'y vois un autre risque, c'est que le clientélisme, hein, qui a caractérisé un peu la politique congolaise à une époque, le clientélisme va trouver là un moyen de se reproduire. Parce que tous ces gens qui apportent leur caution à un candidat avec lequel l'accord n'est pas véritablement profond, on peut s'attendre à ce que le moment venu, si le candidat est élu, le candidat, comme on dit, leur renvoie l'ascenseur. Hein, et donc les nomme à des postes au gouvernement, dans les institutions de l'État ou dans les institutions économiques. Et évidemment, à ce moment-là, il est un peu leur prisonnier et il ne pourra pas les châtier si, par exemple, ils sont incompétents ou s'ils se comportent mal à la tête du pouvoir.
Oui,
et
professeur,
l'autre chose que l'on peut redouter aussi, c'est que comme ces regroupements se font à quelques semaines seulement des élections, hein, et cela dans la hâte, je me demande s'ils ne sont pas très fragiles et si d'ici les élections et surtout après les élections, on ne va pas assister à des recompositions, à des phénomènes de trahison, des phénomènes de migration qui vont évidemment fragiliser les éventuelles majorités au pouvoir.
Oui, professeur Elikia Mbokolo, par exemple, est-ce que le fait de se construire en plateforme, ce n'est pas une façon pour tous ces candidats et formations politiques à mieux affronter les prochaines échéances électorales en RDC, ou bien est-ce simplement une façon pour certains candidats de s'assurer un poste après les élections?
Bon, l'idée de d'entrer dans ces regroupements dans l'espoir d'avoir un poste ne tient pas trop parce que nous savons que il y a eu une quantité excessive de candidatures. Donc il est évident que il y aura à la fois pour les présidentielles et plus tard pour les législatives, il y aura évidemment un très grand nombre de perdants. Et donc on a l'impression, moi d'ailleurs j'ai entendu des candidats me l'expliquer il y a quelques semaines à Kinshasa, beaucoup d'entre eux se sont portés candidats dans l'espoir d'entrer plus tard dans un regroupement, en se disant, bon, je paierai peut-être quelque chose d'un peu important pour les candidats présidentiels, pour les autres, je vais payer une petite somme, mais je suis à peu près sûr que j'aurai un poste ou à l'échelle de l'État ou à l'échelle des provinces, et le monsieur que j'aurai aidé à porter au pouvoir, ben, il me devra quand même une partie de son pouvoir. Et donc ça, pour moi, c'est un risque qui est important et qui risque donc de fausser le jeu démocratique en le poussant vers d'abord un système clientéliste et d'autre part vers un système où il n'y a pas de programme et c'est plutôt la personnalité des candidats qui va l'emporter.
Oui, professeur Elikia Mbokolo, nous sommes dans ces studios également avec François Elika. Il est analyste politique et assistant à l'IFACIC en études approfondies des relations internationales et organisations internationales. Alors François Elika, également votre réaction par rapport à cette question que nous avons posée au professeur Elikia Mbokolo. Est-ce une façon pour tous ces candidats et formations politiques à mieux affronter les prochaines échéances électorales?
Il faut dire concrètement que dès l'instant où vous formalisez des plateformes, des alliances autour non pas des convictions idéologiques ou de programmes cohérents et que la préoccupation non avouée est que vous puissiez, au travers de la personne que vous voulez soutenir, arriver demain à vous positionner, il est clair que ce genre de plateformes vont être fragiles. Et donc on va, pour répondre à la préoccupation, pas en fait répondre, mais reprendre la préoccupation exprimée par le professeur, c'est qu'il y aura évidemment des recompositions et même des décompositions. Mais le problème, c'est que ces plateformes aujourd'hui doivent présenter un programme qui soit celui qui rencontre réellement les préoccupations exprimées par les populations. Vous avez suivi, lorsqu'on a fait, on nous a fait connaître les différentes structurations de ce que ces plateformes appellent programme. Vous vous êtes rendu compte que on énonce des principes. Ce sont des intentions. On vous dit, nous allons promouvoir la bonne gouvernance. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est celui de montrer clairement que nous, pour être différents de cette autre plateforme, nous pensons que nous allons apporter ou utiliser telle stratégie pour que nous arrivions à consolider notre état de droit. Nous allons recourir à telle modalité concrète pour que cette modalité engendre visiblement tel ou tel objectif que nous poursuivons. Mais tout le monde dit...
Mais est-ce que les stratégies, on les dévoile avant même d'avoir gagné les élections?
Non, il ne s'agit pas ici de tactiques, il s'agit de stratégies. Lorsque tout le monde dit, vous prenez le projet de société de tous les partis, on vous dit, nous souscrivons à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur le plan concret? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la spécificité de la réalité du Congo? Parce que souscrire, c'est une chose. Mais de montrer concrètement que lorsque nous souscrivons, cela implique sur le plan de l'organisation judiciaire que nous donnions priorité à tel projet, par exemple, destiné à réformer en profondeur la justice, c'est une autre chose. Je vous donne un exemple. Tout le monde dans ces pays parle de la bonne gouvernance. Et nous n'avons pas vu un programme de corrélation entre la réhabilitation et le renforcement de la capacité judiciaire qui s'avère ici comme une stratégie de réactive donc de lutte contre l'impunité et la presse. Nous n'avons pas ce programme. Or, la bonne gouvernance, pour qu'elle arrive à être concrète dans un pays, il faut promouvoir la capacité de divulgation. Parce que sinon, les hommes politiques, lorsqu'ils ont intérêt, en fait, pas qu'ils ont intérêt, mais lorsqu'ils ne voient pas les méfaits qu'ils causent à la société portés à la place publique par la presse, on n'arrivera pas à la bonne gouvernance. Donc, c'est à ce type de programme que nous voulons assister, de programmes cohérents, donnant ainsi la possibilité à la population de pouvoir se rendre compte concrètement à quoi il faut s'attendre.
Oui, professeur Elika, qu'est-ce qui va se passer si une plateforme gagne les élections ou bien comment les partis politiques vont se partager le pouvoir en cas de victoire du candidat de leur plateforme, par exemple?
Ben, je crains donc ce que mon collègue vient de dire est tout à fait fondé. Dès lors que ce sont des déclarations d'intention plutôt que des programmes, ce qu'on va redouter, c'est que au moment de la victoire et du partage des pouvoirs, on risque d'ailleurs de voir d'autres recompositions au cas où, si nous avons deux tours des présidentielles, je pense qu'il va y avoir d'autres regroupements qui vont se faire. Et en fait, c'est en fonction du poids quantitatif réel ou supposé de chaque partie prenante des regroupements, que tel va demander tel poste de ministre ou tel poste dans les institutions de l'État, plutôt qu'en fonction de la réalisation du programme. Bon, cette question du programme est très très importante parce que si on peut ajouter un autre exemple à l'exemple qui a été choisi, la plupart des plateformes disent « nous sommes favorables à l'économie sociale de marché ». Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que le budget sera organisé? Quels seront les prélèvements qui vont être faits sur les entreprises? Quel programme de travail va-t-on faire pour donner du travail au maximum de citoyens congolais, puisque l'économie sociale du marché suppose une situation de plein emploi ou de quasi-plein emploi? Donc, comme tout ça n'est pas dit, au moment de former le gouvernement, s'il faut un ministre du budget ou un ministre des finances, on va le choisir non pas en fonction de ses compétences par rapport au projet de l'économie sociale de marché, mais en fonction du poids politique du parti qu'il représente ou en fonction de sa proximité multiple par rapport au chef du regroupement en question. Donc c'est une situation qui est extrêmement dangereuse lorsqu'on examine les choses à brève échéance. Mais si on peut parler à longue échéance, ça peut être quelque chose de bon, parce que ce que ces regroupements sont en train de montrer, c'est que la pluralité excessive de partis ne conduit à rien. Au Congo, je pense qu'il y a de la place pour un nombre, je ne sais pas, entre 4 et 6 grandes formations politiques. Nous connaissons les clivages qui divisent la classe politique congolaise depuis 40 ans, les fédéralistes, les unitaristes, les démocrates chrétiens, les autres, etc. Ça peut nous conduire à une demi-douzaine de grandes familles politiques si l'expérience des années à venir montre la fragilité de ces regroupements et pousse les gens à se rassembler dans de grands partis avec des doctrines, avec des idéologies et avec des programmes. Eh bien, ce premier tour aura servi un peu d'apprentissage et pourra nous être bénéfique. Mais oui, c'est un espoir, hein, c'est peut-être de l'utopie.
Oui, professeur, alors François Elika également. Il y a un autre auditeur, Aiko Iyete. Il est étudiant à l'Institut supérieur pédagogique d'Arou. C'est toujours en district de l'Ituri. Il demande ceci. Il dit si des irresponsables s'associaient et réussissaient aux élections, que deviendra le peuple, François Elika?
Le peuple va souffrir, c'est clair, dès l'instant où la démocratie est prise en charge par des personnes qui ne comprennent pas pourquoi c'est une démocratie. Il va de soi que le peuple il va souffrir. Mais le problème, c'est, au fait, moi je comprends à travers la question qui est posée que notre ami voudrait ici exprimer une préoccupation claire. Qu'est-ce que le peuple doit faire pour éviter que, autour d'une plateforme où il y a trop d'irresponsables, que le peuple arrive à tomber dans ce piège? C'est peut-être comme ça
ou
qu'il faut interpréter.
On pourrait le voir dans le sens où, par exemple, dans cette plateforme, je préfère tel candidat et tel autre, je ne les préfère pas. Alors, au moment du vote, si celui que je ne préfère pas arrive à passer parce qu'il est dans une plateforme, ça va se passer comment? Est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre ça comme cela?
Oui, mais je crois que la particularité de toutes ces plateformes, comme nous l'avons dit au début, c'est qu'elles sont structurées autour d'un individu que l'on voudrait amener au pouvoir, mais il s'agit du pouvoir présidentiel. Le poste, c'est celui de la présidente, du président de la République. Donc là, il ne se pose pas tellement de problèmes. Le problème peut se poser au niveau des députés. C'est-à-dire que ceux qui appuient le chef de l'État, c'est toute une quantité de personnes aussi qui voudraient, comme le porte-parole de l'AMP l'avait dit, par exemple, pour l'AMP, il y a plus de 2600 candidats au niveau de la députation et de bien d'autres échelons. Donc, on voudrait ici insister sur le sens des responsabilités, mais je crois que l'élection du chef de l'État doit être une question importante, de sorte que ça soit un débat national en termes de notre capacité à pouvoir apprécier le programme que chacun de ces candidats devra nous présenter. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut commencer par définir les premiers contours de la responsabilité nationale qui va venir par rapport à la démocratie que nous voulons construire. Donc, je me dis, par rapport à ça, le sens des responsabilités ici doit interpeller aussi les citoyens à comprendre à qui il faut faire confiance.
Oui, comme on parle du peuple, ouvrons un autre chapitre dans cette émission et voyons quel est l'intérêt des électeurs donc dans tout ça. Mais avant de répondre à cette question, suivons ce que pensent certains auditeurs de cette émission sur le bien fondé de ces regroupements politiques et commençons par ceux-là qui jugent positive la formation de ces coalitions politiques. Ces propos ont été recueillis par notre stagiaire Jean-Paul Moulumba. Suivons.
Ces plateformes ont des raisons d'être parce qu'actuellement, on travaille en groupement dans tous les secteurs, la mondialisation. Parce qu'on doit choisir un président de la République, pas autant. C'est bien de faire des groupements et de soutenir celui qui peut faire quelque chose.
Oui, ce n'est pas une mauvaise chose. Vous savez que généralement, c'est dicté par le mode de scrutin. Il y a des partis politiques qui sentent honnêtement, objectivement, de même. Ils ne peuvent pas gagner soit un chef, soit les postes auxquels ils prétendent. Et ils préfèrent se regrouper. Et ça serait surtout une très très bonne chose si ça tendrait vers la formation des grands partis. Vous savez que dans des pays de grande démocratie, en l'occurrence la France, vous n'avez que des grands partis. Effectivement, les regroupements, c'est une très bonne chose. Que cela soit la veille des élections ou bien avant, peu importe. Pourvu que nous ayons des grands regroupements qui, peut-être à la longue, peuvent contribuer à la création des grands partis pour que nous en ayons deux ou trois ou quatre. L'inflation des partis politiques, vous savez, ce n'est pas une bonne chose.
Oui, professeur Likiambokolo, votre réaction par rapport à cette analyse même faite par certains auditeurs de cette émission?
Bon, je vois que en gros il y a deux opinions dominantes. L'un des auditeurs évoque la perspective que j'évoquais moi-même, que ces regroupements sont l'antichambre à moyen terme de grandes formations politiques. Bon, espérons qu'on va effectivement y arriver, mais ça veut dire que c'est pas avant 4 ans ou 5 ans. Donc c'est quand même loin. La question c'est, pour le moment, les gens qu'on va élire, quel est le moyen de contrôle que les électeurs ont sur eux, et avant ce moyen de contrôle, quel est le degré de vigilance que les électeurs doivent avoir pour choisir au sommet de l'État une personnalité dont on peut penser que, en tant que chef de l'État, il fera en sorte que les irresponsables éventuels qui sont autour de lui même ne reçoivent pas des fonctions pour lesquelles ils ne sont pas désignés.
Oui, professeur Elika.
Les auditeurs oui. Est plutôt sensible à la tactique électorale. Et moi, je pense que là, il voit bien les questions parce que je crois que pour le moment, c'est pas vers les grandes formations politiques que les gens veulent aller, c'est plutôt vers la tactique électorale. Parce que c'est une constante un peu de l'histoire politique du Congo depuis les élections de 1960 que on se regroupe autour d'un homme, on le soutient pendant quelque temps, quitte à ce que s'il ne renvoie pas l'ascenseur, comme je disais tout à l'heure, eh bien on se sépare de lui, hein. Pensez à toutes les fissions que nous avons connues et dans les partis politiques et dans les regroupements, et là évidemment ça serait une impasse et peut-être une catastrophe pour le Congo.
Oui, François Elika, également votre réaction par rapport à ces opinions, au fait, ou bien à cette façon de voir les choses de nos auditeurs que nous venons de suivre là tantôt.
Bon, j'ai dit que par rapport à ce qui va être fait immédiatement, les regroupements politiques ne vont pas nous donner de courant d'idées, de sorte que nous pensions qu'une recomposition positive va être faite dans le sens de nous donner de véritables partis politiques. Donc, c'est à long terme, comme le professeur l'avait dit aussi. Mais ma préoccupation ici, elle consiste essentiellement à pouvoir amener les citoyens à comprendre quelle est leur part de responsabilité dans l'accompagnement de toutes ces plateformes vers la réalisation de leurs objectifs. Je crois que c'est à ce niveau-là que la question me paraît beaucoup plus importante. Et je me dis que les citoyens doivent jouer un rôle qui est celui d'être des agents critiques de tous les programmes qui leur sont soumis. Évidemment,
nous allons peut-être revenir sur l'attitude même que doivent avoir les électeurs face à ces plateformes. Mais pour d'autres, je vous invite, parce que là, nous avons suivi le point positif de certains auditeurs par rapport à la création même ou à la formation de ces plateformes. Pour d'autres, cependant, les plateformes politiques avant les élections renforcent le pouvoir des politiciens prédateurs. Ces habitants des Kinshasa sont également au micro de notre stagiaire Jean-Paul Moulumba. Suivons.
Plateforme politique à la veille des élections, moi je pense que ça n'a pas raison d'être. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes gens que nous avons connus hier qui ont perturbé les choses dans ce pays. Ils voient que le pouvoir commence à s'éloigner, ils vont créer des plateformes quelque part pour se maintenir au pouvoir. Nous, ce que nous voulons, des hommes nouveaux, nous voulons que les plateformes ne pouvaient pas se créer avant les élections.
Les organisations, les plateformes politiques qui sont en train de faire, ce sont ces gens-là qui ont détruit notre pays. Aujourd'hui, ils viennent maintenant s'organiser pour faire des plateformes, des regroupements. Dans tout ce qu'ils font là-bas, nous voyons totalement l'absence d'État. Et ils ont voulu se constituer dans ces plateformes pour essayer de constituer encore une autre force de prédateurs. Aujourd'hui, le peuple n'a aucun mot, le peuple continue à souffrir. Et dans toutes ces plateformes-là qu'ils sont en train de faire, vous ne verrez plus personne dans ce groupe-là qui vient normalement, c'est vraiment pour défendre la population. Mais ils le font au nom du peuple. À mon avis, et tout ce qu'ils font, ils font constituer que des groupes pour renforcer la puissance des prédateurs, en fait, de maintenir encore aussi la population.
Oui, François Elika, également votre réaction par rapport à ces points de vue de nos auditeurs.
Oui, je trouve que ce point de vue, il est très fort, il est extrême. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont reconnus comme tels, comme prédateurs, mais ça ne peut pas empêcher que les gens se mettent ou créent des plateformes. Les plateformes ont un objectif précis. C'est aux citoyens de comprendre que tel est prédateur, c'est aux citoyens de pouvoir accroître sa capacité de vigilance pour dire tel autre que je connais sur qui on a suffisamment d'éléments en rapport avec sa prédation ou sa capacité de prédation. Donc il ne faut pas l'accepter, il ne faut pas élire pour lui. Donc ça c'est, il ne faut pas voter pour lui, je veux dire. Mais ici le problème ne peut pas être vu sous cet angle. Le problème doit être vu sous l'angle de la manière dont les citoyens doivent intérioriser les différents programmes qui leur sont soumis et la manière dont ce programme doit se révéler dans leur vie comme des réponses concrètes aux préoccupations qu'ils expriment. Donc je crois que le choix doit être orienté par rapport à cette perspective qui me paraît moins objective. Et à ce niveau-là, je me dis que les citoyens ont un rôle vraiment important à jouer.
Oui, professeur Elika Mbokolo, vous avez également suivi cette autre catégorie des auditeurs de cette émission. Alors, quel est l'intérêt des électeurs dans tout ça, en suivant en fait ce que viennent de dire ces auditeurs?
Là, je pense qu'on voit que les électeurs sont très lucides par rapport à la question des personnes. Donc, ils disent qu'ils ne veulent pas que, grâce à ces regroupements, ça soit des personnes que l'on connaît déjà qui reviennent au pouvoir. Et là aussi, je serais assez d'accord avec mon collègue Élie, parce que la question, ça n'est pas tellement la question des personnes. Donc, il faut que pendant les semaines de campagne électorale qui vont venir, selon la manière dont les débats vont être organisés, que les citoyens obtiennent des ressources pour interroger les porte-parole des plateformes ou les dirigeants de ces plateformes sur, non pas l'intention des candidats, mais le programme précis, les échéances qu'ils se donnent et les moyens politiques, parlementaires, éventuellement financiers et autres, les moyens qu'ils se donnent pour obtenir la réalisation de ces objectifs. Ça, je crois que ça pousserait les citoyens à avoir une attitude, je dirais, beaucoup plus active dans le processus que cette attitude de rejet et de protestation qui peut ne déboucher au fond que sur une sorte de dépolitisation
et de haine de la politique qui n'est pas non plus une bonne chose.
Effectivement, professeur, quelle attitude doivent avoir ces électeurs face à ces coalitions politiques? Quel doit être le comportement de la population?
Bon, on a vu, lorsque les candidatures ont été annoncées, moi j'ai vu notamment à Kinshasa les phénomènes de parlementaires debout, hein, comme on dit, et j'ai assisté à plusieurs carrefours à des discussions. Les gens ont commencé déjà à discuter beaucoup, mais souvent la discussion chez nous, à cette époque-là, avant l'annonce des plateformes, en était encore au niveau de « vous connaissez pas tel, il a fait ceci, il a fait ça, tel est de telle région, tel est de telle autre région, oui ces gens-là nous les connaissons ». Il faut maintenant certainement, c'est peut-être le rôle des associations de citoyens, de pousser les citoyens à s'organiser ou d'aller eux-mêmes devant les plateformes pour leur dire « bon d'accord, vous êtes pour la bonne gouvernance, nous aussi. Vous êtes pour l'économie développée, nous aussi. Mais concrètement, qu'est-ce qui va se faire? Par quoi vous allez commencer? Qu'est-ce que vous allez faire pour l'agriculture? Quels sont les moyens? Quelles sont les priorités, etc. ?» pour que les citoyens voient effectivement qui, dans les plateformes, a un vrai programme, qui a les moyens de faire sa politique et qui est, au contraire, un marchand d'illusions, parce que il y a bien dans ces plateformes des gens qui sont des marchands d'illusions et qui savent qu'une fois qu'ils seront au pouvoir, sauf bouleversement considérable, ils ne reviendront devant les électeurs que dans quelques années. Donc ça nous donnera encore des années de retard.
Oui, François Elika, quelle attitude doivent avoir les électeurs face à ces coalitions politiques qui naissent de partout?
Il est vrai que nous allons être confrontés à un problème, à un sérieux problème, c'est que notre société comporte ou régorge plusieurs personnes qui n'ont pas un degré d'instruction à même de pouvoir leur permettre d'apprécier les partis, le programme des différents partis politiques ou des différentes plateformes. Mais il est évident qu'il existe aussi des personnes, des leaders sociaux qui existent dans tous les milieux, qui ont eu la chance de pouvoir se faire instruire et qui ont eu la chance aussi de suivre les cheminements de notre histoire. Les journalistes aussi vont pouvoir aider la population, mais ici, il faut reconnaître que la tâche me paraît bien difficile. Elle me paraît bien difficile parce que, en principe, c'est cette société civile qui aurait pu jouer le rôle d'une sorte de structure sentinelle au niveau de la construction de l'histoire qui est en face de nous. Mais il faut se fier ici à la capacité critique de chaque citoyen. Donc, ceux qui sont instruits, ceux qui ont eu la possibilité d'avoir suivi le cheminement de notre histoire, ceux qui ont eu la possibilité de pouvoir disposer d'un certain nombre d'informations sur tel ou tel autre, pour finalement arriver à organiser des forums, un peu comme on le voit déjà aujourd'hui dans diverses communes où il y a des jeunes qui se retrouvent pour appeler tel ou tel autre candidat, député ou candidat président de la République, le pousser un peu à dévoiler sa vision, son programme d'action et ainsi débattre de ça avec les jeunes. Ça peut peut-être fournir un certain nombre d'éléments d'appréciation pour amener les gens à pouvoir se faire une idée. Mais la tâche me paraît bien difficile à ce niveau-là.
Nadine Foula, bonsoir et quelles sont les opinions que nous avons ce soir?
Bonsoir Boy et bonsoir à tous nos auditeurs. Nous commençons par Basambombo Binda qui nous écrit à partir de Demba au Kasaï occidental. Il dit « S'organiser en groupe politique finira par association de voix et donnera la chance aux candidats élus par le peuple ». Jean-Jules Tshibambe à Lubumbashi trouve que la formation de ces plateformes montre déjà l'incapacité et la tricherie des autres candidats présidents de la République déclinant leur position en vue. Kibambe Tambwe pense que la formation de ces plateformes n'est qu'un trompe-œil. Ces alliances sont contre nature et visent à tromper les naïfs. Et enfin, Salomon, qui nous écrit à partir d'Inga au Bas-Congo, il dit « Ces plateformes traduisent l'esprit mercantiliste de nos politiciens. Ils tentent encore d'éterniser la souffrance des Congolais. »
Oui, François Elika, si nous commençons par vous, quelle est d'abord votre réaction par rapport à ces opinions et brièvement parce que nous tendons vers la fin de cette émission?
Bon, il faut dire que il y en a qui reprennent ce que nous avons eu à dire au début. Les plateformes visent un objectif précis, c'est celui de la conquête du pouvoir. Bon, mais au-delà de ça, les auditeurs posent un sérieux problème. Quel est le degré de fiabilité qu'offrent ces plateformes? Quel est le degré de crédibilité qu'offrent ces plateformes quand on sait que tel a été tel ou tel autre? Bon, évidemment, à ce niveau-là, le problème, c'est celui de se poser la question quelle est l'alternative qu'il faut offrir. Je crois qu'il faut être critique vis-à-vis de ces plateformes, pouvoir se dire les éléments que chacune de ces plateformes offre, on doit les soumettre à la critique, à l'appréciation, pour que finalement on sache quel est le choix qu'il faut opérer.
Oui, mais d'emblée, est-ce pour certains candidats, qui s'alignent derrière une plateforme, c'est pas une façon de s'auto-éliminer. Donc on aura moins de candidats présidents, par exemple, pour qui voter?
Oui, mais c'est clair. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que dans la majorité présidentielle, nous voulons amener Joseph Kabila, c'est clair que la personne qui est visée, c'est Joseph Kabila. Lorsqu'on vous dit que dans Renaco, encore que là, je n'ai pas suffisamment d'éléments sur Renaco, mais lorsqu'on vous dit que c'est Jean-Pierre Bemba qu'il faut amener à la tête, c'est clair que c'est lui. Donc ici, ces plateformes apparaissent comme une stratégie de mobilisation des différentes ressources dont on dispose pour pouvoir porter tel ou tel autre, mais qui est au départ déjà identifié. Et ça, à mon sens, ça ne peut pas poser de problème.
Oui, professeur Elikia Mbokolo, également brièvement, quel est votre point de vue par rapport à ces opinions des auditeurs?
Oui, les auditeurs, au fond, on voit bien que le peuple a des réactions collectives qui se ressemblent beaucoup de part et d'autre. C'est toujours à la fois cet esprit critique, cette méfiance par rapport aux politiques, et c'est clair que ce que ces plateformes désignent nous tous, c'est des noms des futurs présidents de la République. Chacun jugera à partir de ce qu'il sait ou de ce qu'il croit savoir de cette personne, et on risque en effet d'opter pour des individus plutôt que pour des programmes. Bon, je pense que le temps est en effet trop court. Les 4 semaines qui restent avant les élections ne constituent pas un temps suffisant pour qu'il y ait une élaboration suffisamment avancée de ces programmes, une critique et peut-être les alternatives. Donc allons-y, jugeons pour les personnes, en sachant que les citoyens quand même commencent à se rendre compte que le rôle d'électeur ne suffit pas. Il y a quelque chose de plus qui leur est demandé, c'est une action citoyenne active, une présence, une interpellation et une intervention sur le champ politique. C'est peut-être une perche qui est lancée aux leaders d'opinion, aux associatifs, pour qu'il y ait véritablement un mouvement social capable de contrôler le corps politique et la classe politique dans notre pays.
Merci professeur Elikia Mbokolo d'avoir répondu à cette invitation. Merci également à François Elika. Merci également à tous les auditeurs de cette émission. Vous pouvez la suivre demain à 4h45 heure de Kinshasa et sur le site internet sur www.radiocapi.net et sur ondes courtes sur 11.69 kHz. Et encore une fois, au nom de toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, merci et à la prochaine.